Bonjour à tous ou rebonjour. Nous vous proposons une table ronde sur un vaste sujet, très très vaste, trop vaste, qui est tout simplement l'histoire de l'imaginaire américain. Pour ce faire, autour de la table, je vous présente Natacha Vazder, qui est à l'Université de Bordeaux et qui est spécialiste de science-fiction, plutôt contemporaine. C'est ça ? Voilà. Gilles Ménégaldo, professeur à l'Université de Poitiers, spécialiste de littérature et de civilisation américaine, mais aussi de cinéma. À ma gauche, Glenn Cook, bon, l'écrivain sans doute que vous connaissez bien, spécialiste de science-fiction, écrivain de science-fiction et peut-être aussi de dark fantasy, qui est célèbre pour... surtout son cycle de la compagnie noire, que vous connaissez sans doute, Les instrumentalités de la nuit, son cycle sur Garrett, détective privé, Starfishers, ce sont des cycles Dark War, et puis d'autres romans que je n'ai pas le temps de citer, mais en tout cas, l'œuvre est tout à fait copieuse. Nous demanderons à Glenn Cook son avis sur ce qu'on appelle d'une manière d'ailleurs très difficile à traduire en anglais « the American imaginary » ou « American imagination ». Nous, on emploie le terme « imaginaire » qui est bon, assez connoté d'une manière académique, il faut bien le dire. Je crois que beaucoup plus simplement, ce que nous allons essayer de faire en moins de maintenant 50 minutes, c'est tout simplement d'une manière quasiment chronologique, voire à travers l'histoire, à travers l'invention progressive de l'Amérique et de ses mythes, de sa réalité même et de ses croyances, comment des grandes tendances de l'imaginaire américain ont été révélées par la littérature et même le cinéma, les deux étant consubstantiels, surtout aujourd'hui. Donc, il m'appartient aussi, bon, modeste américaniste, de faire un petit topo pour lancer le débat. À vrai dire, si on parle de l'Amérique, on ne sait déjà pas à quelle date on doit commencer, parce que l'Amérique existait avant l'Amérique, hein, ou avant ce qu'on appelle les États-Unis. L'Amérique, comme vous le savez, avant même d'être découverte, elle était déjà dans l'imaginaire européen. Donc, vous avez ce qu'on appelle l'imaginaire du Nouveau Monde, qui a couru de la Renaissance jusqu'au XVIIe siècle, et qui, ce qu'on appelait les grandes navigations, qui ont été ponctuées aussi de découvertes et également de croyances mythico-géographiques. Et l'Amérique s'est retrouvée, en fin de compte, le dépositaire d'un nombre invraisemblable de croyances, dont la plus célèbre, notamment pour les premiers colons au XVIIe siècle, qu'on appellera les Pères Pèlerins, était tout simplement le paradis terrestre. C'est-à-dire qu'on croyait au début du XVIIe siècle que le paradis terrestre était accessible et que donc les puritains, les protestants qui avaient été chassés progressivement d'Europe, pensaient non seulement trouver leur liberté en Amérique, mais également fonder une sorte d'utopie. Hein. On a appelé ça l'utopie puritaine. Je pense qu'on aura aussi l'occasion de repenser l'utopie. L'utopie a toujours fait partie, je crois, de l'imagination américaine, avec évidemment des résonances très différentes, que ce soit une utopie de type religieux au XVIIe et au XVIIIe siècle, et puis des utopies de type politique qu'on va trouver à partir du XIXe siècle. Mais encore aujourd'hui, à travers le cinéma, vous voyez que les Américains n'ont pas renoncé à cette approche typiquement utopique ou dystopique, hein, comme on dit. Je pense que maintenant vous connaissez le terme. La dystopie étant une vision très noire, très, très pessimiste de l'avenir. Alors, pour aller très très vite, le XVIIe siècle, au XVIIe siècle, selon les schémas établis, il n'y a pas eu d'art ni de littérature en Amérique. Je pense que c'est faux, personnellement. Mais disons que les puritains ont tout fait pour annihiler l'imagination. Tout simplement parce qu'on n'avait pas le droit de représenter une pièce, parce que bon, Dieu était partout, la Bible était partout. Et donc, il ne fallait pas tenter le diable, si j'ose dire, par une certaine forme de liberté de l'imaginaire. Et donc, d'une certaine façon, l'imaginaire pur a été totalement laissé de côté, dédaigné très longtemps pour des raisons idéologiques. Et puis au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, lorsque les Américains ont conquis leur indépendance, ben, ils se sont dit qu'il serait peut-être temps de conquérir aussi notre indépendance littéraire, notre indépendance artistique. Et puis ben, ils se sont dit, mais comment faire ? Et ben, en fin de compte, ils ne savaient pas du tout comment faire, parce que les seuls livres en anglais qu'on trouvait au XVIIIe siècle en Amérique, c'était des livres anglais. Et donc, ils se sont dit, mais comment pourrait-on faire de l'original ? Eh bien, un fou qui s'appelait Charles Brogdon Brown, en 1798, s'est dit, bah, écoutez, la seule façon de créer de l'américain, c'est de s'inspirer de l'européen. Et donc, il va pomper, si j'ose dire, le gothique anglais, allemand et français, et le transposer sur le monde américain. C'est très important ce qui se passe, car les Américains, en fin de compte, n'ont jamais renoncé à leur tradition gothique, et je me demande même si c'est pas eux qui l'ont inventé d'une certaine façon. Mais enfin, pour ceci, ceci est une autre histoire. Mais en tout cas, ce côté noir de l'Amérique, ce côté pessimiste, ce côté violent, cette confrontation avec le monde sauvage de la wilderness, je pense que vous connaissez le terme « wild », qui ne signifie pas seulement en anglais sauvage, mais qui exprime l'idée d'une chose qui est absolument immaîtrisable, incontrôlable, d'un danger permanent, eh bien cet aspect de la nature américaine, il n'a jamais disparu. Et si vous regardez quelques nanars des films d'horreur de série B ou Z, vous apercevez que les trois quarts du temps, eh bien vous avez toujours des entités étranges qui apparaissent la wilderness, tandis que vous avez quelques chérubins qui sont en train de faire la fête dans la maison de leurs parents sans savoir qu'ils vont se faire bouffer. Donc, pour, d'une certaine façon, cet imaginaire puritain n'a jamais vraiment disparu, et je pense que le gothique est un petit peu le fil d'Ariane qui court du XVIIe siècle jusqu'à maintenant. Bon. Ensuite, bien sûr, au XIXe siècle, bon, l'écriture américaine va devenir un peu plus académique, et là, évidemment, il faudra parler de gens très connus, et il y en a un, à mon avis, qui me semble absolument incontournable, comme on dit, c'est Edgar Allan Poe, parce que Edgar Allan Poe est un génie. Pourquoi c'est un génie ? Ben parce qu'il a au moins créé deux genres littéraires. Je dis au moins un parce qu'au moins vous savez que c'est le créateur du roman policier moderne, mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'il est aussi considéré comme l'un des créateurs de la science-fiction. Et donc on retrouve dès la fin, dans les années 1835-1840 aux États-Unis, une sorte de fascination aussi pour la technologie, les voyages dans l'espace, et ce genre de choses. Donc, si vous voulez, la veine noire, si j'ose dire, du gothique va se retrouver également chez Poe, mais on va également trouver chez lui une ouverture vers la science. Et je pense que c'est une certaine forme d'originalité. Gilles, si tu veux dire un mot sur Poe.
Oui, alors je vais embrayer sur ce que tu as dit, mais peut-être que je voudrais évoquer avant un autre écrivain qui s'appelle Washington Irving, qui est censé être l'un des pères fondateurs de la littérature américaine moderne, avec des nouvelles alors que vous connaissez peut-être comme l'une en particulier qui s'appelle Sleepy Hollow, parce qu'elle a été adaptée au cinéma par Tim Burton, donc une nouvelle de 1820, et cet écrivain, Washington Irving, a aussi écrit une sorte de récit qui pourrait être un récit de science-fiction, mais qui n'en est pas un, c'est-à-dire un personnage qui s'appelle Rip Van Winkle, qui s'endort pendant 20 ans et qui découvre une Amérique totalement transformée. Donc on pourrait transposer ça, par exemple, avec le roman de Wells, Le Dormeur s'éveille, qui lui dort pendant 2 siècles, je crois, et se réveille pour trouver là aussi, encore une fois, une Europe changée. Donc Washington Irving est une étape importante dans l'imaginaire américain. C'est, on pourrait dire, le père fondateur du fantastique américain, peut-être à certains égards autant qu'Edgar Poe, avec un syncrétisme, c'est-à-dire une utilisation des mythes ou de la culture européenne, mais là encore adapté au continent américain. Et dans Sleepy Hollow, c'est pas tellement vrai dans le film de Tim Burton, mais dans la nouvelle, le personnage donc interprété par Johnny Depp dans le film part à la fin de la nouvelle vers l'ouest. Donc on a déjà le tropisme de la conquête de l'ouest. Le personnage part de l'est d'un coin qui s'appelle Sleepy Hollow, c'est-à-dire littéralement le Val dormant, là où il ne se passe rien, hein, une espèce de trou dans l'espace et dans le temps. Et il va ensuite à la conquête de l'ouest parce qu'il n'a pas réussi à conquérir la femme. Et donc, il va se consoler, en quelque sorte, en faisant carrière à l'Ouest. Voilà. Alors, pour revenir à Edgar Poe, effectivement, donc Loric en a déjà dit l'essentiel, c'est-à-dire que c'est le père fondateur, lui, de au moins 2 genres littéraires, mais en particulier du genre policier, avec les aventures d'Auguste Dupin. Mais c'est aussi quelqu'un qui, effectivement, a associé étroitement la littérature et la science, notamment dans un texte que vous connaissez peut-être, qui a été rendu célèbre par un texte de Roland Barthes, hein, le grand critique, qui s'appelle Le cas étrange du docteur de Monsieur Valdemar. Et donc c'est l'histoire de quelqu'un qui est en fait en état de catalepsie, en quelque sorte, hein, et qui, plongé dans cet état profond, donc par hypnose, se retrouve à pouvoir dire à un moment donné... il est passé en quelque sorte de la vie à la mort et il est capable de dire « je suis mort », hein, ce qui est effectivement un énoncé improbable. Hein, qui peut dire « je suis mort » sinon un mort vivant ou un vampire. Voilà, donc ça, et ce qui est intéressant dans cette nouvelle, c'est que Poe l'a fait publier en fait dans une revue scientifique, elle l'a présenté comme un rapport médical et non pas comme une fiction. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il joue sur le rapport réalité-fiction. Par ailleurs, Poe est aussi celui qui s'intéresse au voyage vers la Lune, donc il reprend le motif du voyage, du voyage planétaire et donc effectivement en ce sens-là, il fait aussi partie de ceux qui ont forgé l'imaginaire science-fictionnel des Américains. Bon, je ne parle pas bien sûr de sa revisitation, alors contrairement à Brogdon Brown dont on parlait Loric à l'instant, le fait qu'Edgar Poe a lui développé une sorte de fantastique psychologique, on va dire, et comme il le disait lui-même, mon fantastique ne vient pas de l'Allemagne, c'est-à-dire qu'il n'est pas tributaire de la tradition gothique européenne, mais de l'âme. Et donc, c'est aussi pour ça que Poe est considéré comme un écrivain d'une grande modernité et qui a touché effectivement un certain nombre de genres et qui a aussi, bien sûr, inspiré beaucoup d'écrivains dont on parlera un peu plus tard, puisqu'on a décidé de procéder de manière plus ou moins chronologique, je crois. Voilà.
Peut-être avant que tu veuilles tout de suite intervenir, je voudrais poser une question à notre invité américain. J'espère que cette question ne sera pas trop sérieuse. Mais est-ce que au départ de votre carrière littéraire, vous avez été inspiré par quelque chose de spécifiquement américain, que ce soit l'histoire ou la littérature, ou alors des livres qui étaient tout simplement européens ou d'autres ou autres?
At this moment, I'm feeling like a bricklayer at a nuclear physicist convention. I have no idea what these gentlemen are talking about, even though this gentleman here has very kindly translated everything into my ear in very clear English. I really don't know what they're talking about. Vaguely, I've heard of Washington Irving. We had to read his work as children's stories when I was in about third grade. Edgar Allan Poe I've read a little of, but it's too old-fashioned and basically dull for me to really give a hoot about.
J'ai un peu l'impression d'être comme un poseur de briques à une convention de physiciens nucléaires. Donc j'ai vraiment aucune idée de ce dont ils sont en train de parler. Et je suis complètement largué. Donc pour moi, j'ai vaguement lu Washington en troisième année. Et puis, par contre, Edgar Allan Poe, j'en ai lu, mais c'était trop ennuyeux pour moi, donc je me retrouve pas vraiment là-dedans.
Par contre, je crois savoir que vous êtes intéressé à l'histoire de votre pays et que, par exemple, une partie de votre travail était inspirée par la guerre civile, par exemple. Donc, il y a bien des choses spécifiquement américaines qui vous ont inspiré. Non? Am I wrong?
The only thing that I've ever done that had anything to do with the American Civil War was the first story I ever tried to write when I was in seventh grade, about 11 years old.
Alors, je crois que la seule chose qui avait un vague rapport avec la guerre civile dans ma carrière, c'était la première histoire que j'ai écrite à 11 ans en septième année.
Je retente ma chance.
I'm very, very much interested in history. History is a thing that I almost like to swim in. I like to understand the whole process of and how the people and the politics and the unexpected pressures of unexpected events and unexpected disasters and whatnot change history. But I've never been particularly specifically focused on American history.
Mais cela dit, je suis quand même très intéressé dans l'histoire. Et donc, c'est quelque chose que j'aime, dans lequel j'aime nager, c'est quelque chose dans lequel j'aime évoluer. Je suis particulièrement intéressé par la manière dans laquelle les gens évoluent et répondent à la pression de différents événements inattendus, par exemple aux politiques, et comment est-ce que cette réponse peut changer l'histoire. Donc, voilà.
Vous dites que vous vous intéressez à l'histoire militaire, notamment.
Not just military history, but military history is a large interest for me because most of the stuff that I write about is about people involved in military situations. Very few of my books do not deal with soldiers or warriors of some sort having to deal with the everyday life of being soldiers or warriors.
Donc, cela dit, donc je me focalise quand même sur l'histoire d'Amérique, l'histoire américaine, et pas seulement l'histoire du militaire. Donc, il est vrai que dans mon œuvre, il y a beaucoup d'aspects militaires. Ça, c'est parce que j'écris beaucoup sur des situations militaires et la vie du quotidien du soldat. Mais je ne parle pas du quotidien du soldat, je parle vraiment des situations dans lesquelles il se trouve.
Merci. Natacha, du point de vue du rapport peut-être entre l'histoire et la science-fiction du côté américain?
Oui. Moi, je vais. Bon, on va quitter un tout petit peu le déroulement chronologique là de la table ronde. Simplement, je crois que l'imaginaire américain peut se structurer selon trois perspectives. D'abord, l'imaginaire américain, c'est un imaginaire entre lumière et ténèbres. On va le retrouver évidemment dans l'horreur contemporaine. C'est également deuxième perspective, une confrontation entre la terreur et le sacré. Le passé et le futur, et évidemment, c'est troisième perspective, l'imaginaire de la frontière. Donc, bien sûr, nous avons évoqué déjà la wilderness, mais je crois que la frontière, c'est vraiment un thème essentiel donc, de l'imaginaire américain. Alors, pour reprendre et faire le lien avec la science-fiction, moi, je crois que l'invention, par exemple, du Nouveau Monde aux États-Unis, pour revenir, enfin, en Amérique plus précisément, pour revenir à l'origine, va se traduire, si vous voulez, comme la quête d'un espace utopique qui va être portée finalement par l'énergie du voyage vers l'Ouest Et on va retrouver ça, évidemment, en science-fiction depuis quasiment les années 1910-1920. Je dirais plutôt avec cette obsession de la conquête spatiale et notamment avec les bienfaits de la colonisation et le genre du space opéra qui est un des genres peut-être les plus anciens de la science-fiction et notamment, bien sûr, de la science-fiction américaine. Deuxième perspective et deuxième lien que l'on pourrait faire avec la science-fiction, je crois, en évoquant la wilderness, qui est véritablement un lieu de sauvagerie, mais également un lieu de perdition, un lieu de mort. Et je crois que cet espace, finalement, que l'on ne maîtrise absolument pas, on peut le retrouver dans le cyberpunk. Alors, on en reparlera un petit peu, je pense, tout à l'heure. On va le retrouver dans le cyberpunk, avec notamment la création du cyberespace, puisque le cyberespace est une frontière virtuelle que l'on ne maîtrise absolument pas et on ne sait pas ce qu'on va trouver dedans. Je pense évidemment à une des œuvres fondatrices du cyberpunk qui est The Neuromancer de William Gibson. Et enfin, troisième élément qui me semble extrêmement important par rapport à la science-fiction, c'est que justement cet imaginaire américain est pour nous un espace également de régression, un espace régressif. Et en explorant finalement l'homme de la frontière, c'est l'imagerie du pionnier, hein, dans une imagerie plutôt traditionnelle, aussi bien évidemment dans la littérature que dans les westerns et bien sûr au cinéma, eh bien l'homme de la frontière va explorer un espace totalement inconnu et en même temps il va bien évidemment explorer, un espace inconscient. Alors, quelques références, mais la science-fiction, c'est aussi quelque part l'épopée de la marginalité. Et on va retrouver ça, par exemple, chez Norman Spinrad ou chez Philip K. Dick, hein, je pense notamment à Glissement de temps sur Mars, ou encore alors un écrivain qui n'est peut-être pas spécifiquement un écrivain de science-fiction, mais William Burroughs, par exemple, avec Le Festin nu. Donc, je pense qu'en reprenant ensuite l'ordre chronologique de cette histoire de l'imaginaire, on va croiser comme ça ces grandes perspectives et ces grands thèmes, et ça va nous permettre évidemment de faire des références à la science-fiction et puis à des genres un petit peu hybrides de la littérature, voire du cinéma. Donc, Loric ?
Oui, bon, toujours pareil, imaginaire et puis les genres littéraires, c'est très très compliqué parce que évidemment. Nos amis écrivains, eux, quand ils écrivent, ils se disent pas je fais de la fantasy, de la dark fantasy, de l'horreur, un récit de terreur, de la science-fiction. Je pense pas que les gens qu'on a cités jusque-là étaient tout à fait conscients des genres qu'ils initiaient d'une certaine façon. Donc, faut se méfier peut-être des labels trop rapides. C'est pour ça que moi, j'aime bien parler de l'imaginaire américain sous toutes ses formes. Bon, il y a des formes qui sont complémentaires, il y a de tout. Il y a des choses qui sont tout à fait sérieuses, il y a des choses qui ne le sont pas. Et un écrivain comme Washington Irving a une façon non sérieuse de dire des choses très, très sérieuses. Et ça me semble aussi très, très intéressant chez certains Américains et peut aussi et de cela. Mais enfin, c'est vrai qu'on est au 19e siècle. On va peut-être se rapprocher un petit peu plus du monde actuel. Je crois qu'il y a un auteur que tout le monde connaît et qui se situe à la fois entre le fantastique, l'horreur et la science-fiction, c'est H.P. Lovecraft. Et peut-être, Gilles, tu vas nous parler un petit peu de Lovecraft.
Oui, alors je ne sais pas ce que pense notre collègue écrivain de Lovecraft. Comme il a parlé de Poe, bon, Poe évidemment est une sorte de dieu littéraire pour les Européens et aussi, je crois, pour quand même beaucoup d'Américains. Et Lovecraft est un de ses héritiers. Il le dit clairement dans sa correspondance. Et au départ, il commence comme un imitateur de Poe. Ce qui est particulier chez Lovecraft, c'est que c'est un imaginaire justement régressif à certains égards, c'est-à-dire qui postule que l'Amérique, en fait, finalement, n'est que épiphénomène. Hein, donc c'est une sorte de relativisme, hein, ce qu'il appelle un relativisme cosmique, c'est-à-dire que l'homme, à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, là, on est vraiment en termes d'histoire, on est bien dans le sujet, est un épiphénomène Et dans certains de ses textes, dont l'un devait être adapté, je crois, par Guillermo del Toro, et le projet était abandonné, Les montagnes hallucinées, Les montagnes de la folie, il est question justement d'une expédition au pôle Nord où les êtres humains se découvrent finalement comme dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire cosmique de l'humanité, comme un être créé pour le plaisir par des extraterrestres, des êtres supérieurs. Autrement dit, l'idée de l'Amérique comme un pouvoir impérialiste, etc., ce qu'elle est déjà à la fin du 19e, et on en voit un exemple, par exemple, dans Dracula de Bram Stoker, hein, où il y a un personnage d'Américain, vous vous en souvenez, Quincy Morris, qui représente le nouvel impérialisme américain, concurrent de l'impérialisme britannique. Cette idée-là est reprise en quelque sorte et inversée par Lovecraft. L'Amérique n'est plus un régime impérialiste ou une nation impérialiste conquérante. Au contraire, l'Amérique est contaminée de l'intérieur, si on peut dire, par des entités extraterrestres qui s'emparent des rêves, par exemple, des artistes ou des intellectuels et qui, littéralement, les asservissent, hein, leur volent leur cerveau. Hein, il y a des échanges de cerveaux, etc. Et c'est pour ça que Lovecraft est du côté de l'horreur, effectivement, et de l'horreur aussi bien terrestre que cosmique, que de la science-fiction, parce que justement, il postule aussi l'existence de créatures supérieures, qu'il appelle parfois des entités, qui sont à la fois des monstres, des dieux, et des extraterrestres. Donc c'est dans ce mélange, cette hybridité générique, que Lovecraft trouve son originalité, je pense. Voilà pour Lovecraft. Et effectivement, Lovecraft a façonné à sa manière l'imaginaire américain. Alors, avec évidemment une controverse qui a peut-être maintenant été un petit peu éteinte, mais comme vous le savez, Lovecraft a été considéré comme un écrivain raciste. Hein. Il stigmatise les étrangers. Il stigmatise tout ce qui est de l'ordre de l'immigration. L'immigration qui transforme, selon lui, les villes américaines, les grandes cités américaines en villes cauchemardesques parce que justement envahies par ces immigrants qui viennent d'ailleurs. Et donc ces immigrants qui sont assimilés aussi plus tard à des extraterrestres. Donc il y a une sorte de lien entre l'histoire réelle de l'Amérique et notamment la détestation de l'étranger. Il ne faut pas oublier quand même que c'est la xénophobie, c'est quelque chose de très important en Amérique. Loric pourra le confirmer. Et donc cette détestation de l'étranger qui est à certains égards un petit peu, comment dire, ce qui a fait que Lovecraft a été considéré comme quelqu'un justement de raciste. Voilà. Donc je pense que Lovecraft est effectivement une des étapes importantes dans ce façonnage de l'imaginaire américain.
D'accord. Alors ça, Lovecraft écrit à un moment aussi assez intéressant de l'histoire américaine, c'est-à-dire au début du XXe siècle, jusque dans les années 30.
Et,
vous le savez sans doute, il est très ami avec, même s'il vit d'une manière totalement isolée, il est très ami avec au moins deux personnes, deux grands écrivains américains, enfin moi que je pense qu'ils sont des grands écrivains, Howard et puis Smith, Clark Ashton Smith. Et il faut savoir donc qu'il y a plusieurs sortes d'imaginaires qui vont se trouver liés par ces trois personnes. La spécificité de Lovecraft, bon, Gilles vient de nous l'expliquer. Chez Howard, là, il y a une ouverture peut-être que notre ami Glenn Cook trouvera plus intéressante chez Howard, avec une vision qui est beaucoup plus cosmopolite, beaucoup plus universelle, et qui a une connaissance parfaite de l'histoire et des grands cycles historiques. On connaît évidemment d'une manière un peu parodique Howard à travers Conan le barbare. Or, ça me semble ce qu'il y a peut-être de moins intéressant dans son œuvre. Mais au moins ce qu'il y a chez Howard, même s'il a une carrière très courte, il s'est suicidé à 30 ans, il avait une érudition invraisemblable en matière historique. Il connaissait toute l'histoire du monde, non seulement l'histoire de son pays. Il s'intéressait beaucoup à l'histoire de son pays, un petit peu aussi comme Edgar Rice Burroughs, le créateur de Tarzan. Faudra peut-être qu'on en dise un mot aussi. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui s'intéressait donc l'histoire de l'homme, c'est-à-dire l'histoire de la violence. Ce que Howard et peut-être aussi Lovecraft apportent dans les années 20 et 30, c'est une violence qui va déferler. Et évidemment, comment ne pas voir le lien entre ce déferlement de violence barbare et ce qui va se passer, bien sûr, dans le monde. Et donc, je me demande si les écrivains dits de fantasy, je pense à Fritz Leiber, Lynn Carter ou des gens comme ça, ne sont pas aussi importants parce qu'ils amènent d'une façon un petit peu plus soft ce que d'autres disent de manière plus hard.
Oui, et Fritz Leiber est un ami de Lovecraft aussi. Enfin, ce sont des gens qui connaissent bien Lovecraft.
Monsieur Cook, est-ce que vous voulez dire quelques mots sur les écrivains que je viens de citer, les écrivains de fantasy, Howard, Fritz Leiber, Lynn Carter.
I've read all of them. I've enjoyed all of them. I didn't see any of that stuff in them. But then I read to enjoy stuff. I read to have fun. I'm not looking for all that stuff in there. Lynn Carter, I will say, is one of the reasons that I started trying to write for actual publication. I had a job where I didn't have to do anything but be there and answer the phone, and read a lot, and read a Lynn Carter book that was so awful that I believed that I could write a better book.
Donc j'ai effectivement lu et beaucoup apprécié tous ces auteurs, même si je n'ai pas vu du tout tout ce que vous avez raconté dans leur œuvre. Je lis en général surtout pour le divertissement, pour apprécier l'œuvre, pour apprécier la lecture. Cependant, Lynn Carter, c'est effectivement une des raisons qui m'a poussé à vouloir écrire et publier ce que j'écris. La raison étant qu'à cette époque-là, j'avais un travail qui consistait simplement à être présent et à répondre au téléphone quand il sonnait, ce qui me laissait beaucoup de temps pour lire, notamment Lynn Carter. Et j'ai lu un de ses livres qui était tellement terrible, tellement mauvais, que ça m'a donné envie d'écrire quelque chose de bien meilleur.
When I was a high school student, I was required, because I was an honor student, to attend symposiums similar to this, and became very impatient with them. And so when I did start writing for publication, I worked very hard on my first 10 or 11 books to put stuff in there that would confuse people like these up here if they ever got to the point where they were studying my work seriously.
Lorsque j'étais un étudiant au collège, j'ai reçu un prix, et donc on m'a demandé de rejoindre un symposium de ce type-là, en fait. Et puis, j'avoue que j'étais très impatient pendant ce symposium, donc c'est pour ça que ça m'a donné envie d'écrire les prochains livres que j'ai écrits, les 8 prochains livres que j'ai écrits. J'ai voulu les rendre aussi confus que possible pour que les gens qui essaient de l'étudier n'y comprennent rien, s'ils essaient de l'étudier de manière sérieuse.
Nous avons tous eu la chance de rencontrer divers écrivains, que ce soit de science-fiction ou autre. Il y a bien sûr leur façon de percevoir leur travail, et il y a bien sûr la postérité. Et il arrive un moment où l'œuvre d'un auteur finit par ne plus lui appartenir. Et quand je lis les commentaires qui ont été donnés par certains écrivains de leur propre œuvre 20 ans ou 30 ans ou 50 ans après, ben je perçois qu'ils se sont souvent trompés. On ne maîtrise pas tout dans le processus de l'écriture, que ce soit pour l'Amérique, que ce soit pour le reste du monde. Bon, je dis ça en passant.
Oui.
Pour revenir à notre sujet, bon, on peut peut-être parler, parce que je vois que l'heure tourne. Bon, parmi les, il y a aussi la mythologie qui joue un grand rôle dans la vie américaine dès le départ. Bon, plusieurs mythes, les mythes fondateurs de l'Amérique, on ne va pas les reprendre. Mais disons, allons à l'essentiel aujourd'hui avec le retour des super-héros, par exemple. Bon, vous savez que ces super-héros, ils naissent dans les années 1920, mais surtout 1930, et bon, ils sont éclipsés ensuite après la Deuxième Guerre, et puis ils reviennent en force aujourd'hui, Est-ce qu'on pourrait réfléchir un petit peu là-dessus?
Oui, sur les super-héros. Oui, d'abord, je crois que les super-héros sont nés très très tôt quand même hein, dans l'imaginaire américain. Vous me direz si je me trompe, mais dans les années 20, les années 30, puis évidemment avec un développement dans les années 40, on peut évidemment penser à la dernière version cinématographique de Captain America. Le premier, je dirais, de ces super-héros. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que je crois que dans l'histoire des super-héros, on va retrouver finalement cette tension assez palpable que l'on retrouve dans l'imaginaire américain entre, par exemple, cette vision du nouveau monde et une certaine vision de l'enfer. Pour faire un petit lien très très rapide avec la science-fiction, si vous regardez par exemple certaines visions de l'extraterrestre, on a, je pense par exemple à la saga Alien ou à Predator, nous avons des extraterrestres avec qui on peut quasiment faire une analogie par exemple avec le démon, avec une vision du diable. Bon, ça évidemment c'est lié à la dimension aussi puritaine bien sûr de l'Amérique. Et pour en revenir aux super-héros, moi ce qui me frappe dans ces histoires de super-héros, c'est que plus on va aller peut-être vers une certaine modernité et vers l'époque contemporaine, plus les super-héros vont être partagés quand même entre, je vais prendre une expression facile, mais attirés par un côté obscur. Je pense notamment à Spider-Man. Spider-Man qui, notamment dans la vision cinématographique, il me semble que c'est le troisième opus, va être attiré. Alors c'est d'ailleurs une entité extraterrestre qui va qui va modifier donc sa personnalité. On peut penser aussi à Superman et au rôle donc bien sûr de la kryptonite qui va le faire basculer, je dirais, dans une personnalité, sa personnalité à lui de super-héros, ou une personnalité négative et tomber dans la banalité. Donc je crois qu'à travers cette tension et cette dialectique, alors on ne va pas parler, parce que ce serait très simpliste, dialectique entre le bien et le mal, mais je crois que dans cette tension-là, on la retrouve, cette tension d'imaginaire américain, on la retrouve également dans l'histoire des super-héros.
Je vais peut-être parler de Spielberg. Oui, je voulais enchaîner par rapport à ça, pas pour parler de super-héros, on parlait finalement de deux visions de l'autre, et de deux visions d'extraterrestres, par exemple. Tu viens de parler d'une vision, effectivement, démoniaque, mais on trouve chez Spielberg par exemple une autre vision de l'extraterrestre avec un film comme E.T. ou Rencontre du troisième type, où au contraire il y a une volonté de communication avec l'autre, c'est une sorte d'ouverture à l'autre. Ça fait partie de la tension entre donc l'ouverture à l'autre, la communication, et le rejet de l'autre, donc on trouve exprimé de différentes manières, mais par exemple évidemment dans les films où les extraterrestres sont des méchants, dans tous les films des années 50, qui sont, comme on le sait, liés à l'idéologie américaine et le refus justement de l'étrangeté, de l'altérité. On a associé bien sûr ça au péril rouge, hein, au péril communiste. On a associé ça aussi de manière contradictoire au macartisme, c'est-à-dire la dénonciation du macartisme, par exemple dans un film comme L'invasion des profanateurs de sépulture de Don Siegel. On peut le lire aussi bien comme une parabole anticommuniste que comme une parabole anti-macartiste. Donc on voit que le discours est très ambivalent. Et donc, je crois que la tension dont parlait Lorik tout à l'heure s'exprime aussi par cette manière de percevoir l'autre dans l'imaginaire américain, qu'il soit donc littéraire ou cinématographique, soit du côté de quelqu'un avec qui on peut s'entendre, on peut communiquer, qu'on peut essayer de comprendre, ou au contraire, ou quelqu'un qui est totalement imperméable et qu'il faut éliminer. Ce qu'on retrouve aussi, évidemment, dans des films récents comme Independence Day ou Starship Troopers, où l'alien doit être éliminé parce qu'il est fondamentalement dangereux, mortel pour la race humaine.
Oui, peut-être pour revenir sur les super-héros. Bon, c'est tout de même une spécificité américaine, il faut bien le dire. Il y a une sorte de talent spécifique, en tout cas à l'Amérique, celle de produire une culture populaire qui dépasse les cadres de ses frontières pour devenir universelle. On peut penser tout ce qu'on veut des productions de Hollywood ou des productions de BD ou de comics plutôt, et des sympathiques breuvages qui inondent le monde entier. Mais malgré tout, il faut reconnaître tout de même que les mythes que réactive le cinéma américain, ou les gens comme Alan Moore, dont on parlait, finissent par devenir évidemment éminemment américains au départ pour devenir universels. Parce que quand on regarde bien ces super-héros, bah, c'est un panthéon païen qui est totalement réactivé. Regardez bien les dieux qui reviennent sur les écrans. Bon, bien sûr, vous pourrez me dire que Superman, c'est Superman, le grand héros, typiquement américain, avec le drapeau américain même sur ses habits. Mais vous avez d'autres créatures qui sont issues du panthéon gréco-romain. Vous avez Thor, dont on vient de faire un film, qui est issu du panthéon germano-nordique. Donc c'est assez étonnant. Moi, je pense en effet qu'il y a une tension permanente dans la société américaine entre des forces contraires, notamment entre les forces religieuses traditionnelles, bibliques, je dirais, et puis des forces païennes. Et puis il y a cette violence qui est non seulement inhérente à la société américaine et inhérente à ces guerres inlassables, il faut bien le dire, pour un pays pacifique, sa violence urbaine, et puis la violence qui passe à travers le western, traditionnellement les films d'action, les films de guerre, ou une violence qu'on trouve chez Heinlein, jusque les films dont on parlait tout à l'heure, comme Starship Troopers et autres, eh bien, cette violence, curieusement, elle pourrait venir, en fin de compte, d'un vieux fond de paganisme qu'a très très bien vu quelqu'un comme Howard, par exemple. Hein, peut-être il y a quelque chose de spécifiquement scandinave, je dirais nordique, dans le héros américain. C'est une des contradictions. Ce que j'aime dans l'Amérique ou dans l'américain, c'est justement ce côté schizoïde, ce côté double. Pour comprendre l'Amérique, il faut comprendre sans arrêt ce jeu entre la lumière et les ténèbres, la lumière entre le régime urbain de l'Est et l'Ouest et sa wilderness et puis ses grands espaces. Il faut savoir que si les Indiens ont été pratiquement exterminés, ils sont encore bien vivants dans la tête des Américains. Et rien que pour ça, c'est absolument passionnant de les voir revenir, par exemple, pour rencontrer des extraterrestres dans la dernière production kitsch qui s'appelle Cowboys and Aliens. Ouais. Je ne sais pas comment ça a été traduit en français. Cowboy et extraterrestre. Ah oui, d'accord.
Cowboy extraterrestre.
Bon, il y a qu'évidemment la société américaine pour produire un film aussi improbable. Et il faut avouer que bon, c'est tout à fait, comment dire, kitsch. C'est tout à fait... Oui, c'est parce que c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est tout à fait drôle de constater cette multiplicité d'offres aujourd'hui, quoi.
Mais je voulais simplement dire que bon, il y a des hybridités comme ça, un peu improbables, comme par exemple le western et le film d'horreur, Billy the Kid rencontre Dracula. C'est-à-dire, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, ce genre d'hybridité, on la retrouve dans toute l'histoire du cinéma américain aussi. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a le retour de ça.
Juste une référence par rapport à justement à cette mythologie ou à cette réactivation des mythes dans la littérature américaine. Je pensais à un roman de Neil Gaiman qui s'appelle American Gods et qui est une vision tout à fait créative, renouvelée, inventive d'une sorte de panthéon de dieux, enfin de dieux, de demi-dieux qui sont en fait plus ou moins cachés donc dans la société. Dans la société américaine et qui se livrent à des petits combats entre eux, mais de façon tout à fait cachée et qui n'entrent jamais quasiment en contact finalement avec les mortels. Et donc ça, c'est un roman tout à fait intéressant parce que il nous montre bien justement cette donnée mythologique de l'imaginaire américain qui a su intégrer, parce que c'est justement ce panthéon de dieux reprend des éléments de toutes les mythologies, bien évidemment, européennes, hein, et puis ses racines dans la mythologie européenne, mythologie donc classique, grecque, celtique et scandinave, nordique.
Ok. Est-ce que M. Cook, vous voulez ajouter quelques mots à notre débat d'aujourd'hui? Est-ce que vous voulez parler de l'Empire, par exemple? Est-ce qu'on... Même si c'est un... Bon, quelle est votre conception de l'Empire? What empire? The empire you talked about in your books, for instance, les empires in general.
I've been thoroughly intrigued here learning about stuff about my own culture and country that I don't see from the inside. Certainly, American imagination has a rather simplistic outlook on the world. We see things in terms of light and darkness or good and evil. I suspect that as we get more and more of a European influence on our arts, everything becomes more shades of gray and whatnot rather than just bash them over the head and get it over with, which is the Robert E. Howard school of politics and whatnot. You asked me about an empire, and I'm again losing.
Je vous demandais, parce que c'est un concept que vous utilisez beaucoup dans vos livres, pour en faire même des sagas, est-ce que vous pensez vous projetez éventuellement un modèle d'empire, une réflexion, disons, d'un Américain sur l'empire ou les empires? Est-ce que vous pensez qu'en fin de compte, l'empire américain pourrait suivre les autres empires de l'histoire, que ce soit l'empire de la Chine, ou est-ce que votre conception de l'histoire vous mène plutôt vers une conception, optimiste ou pessimiste?
When I think of empires, I think of either Rome or China.
Pardon? Excusez-moi. Oh, pardon.
Je vais juste traduire ce qu'il a dit tout avant. Encore une fois, je suis très intrigué par tout ce que vous dites et d'apprendre toutes ces choses que je ne connaissais pas sur mon propre pays. Peut-être parce que je le vois de l'intérieur et de cette manière, j'ai une perspective différente. Pour moi, les images aux États-Unis sont toujours très simples. C'est, comme vous l'avez dit, c'est l'opposition de la lumière et de l'obscurité, du bien et du mal. Mais peut-être qu'en apportant de plus en plus d'éléments européens, on gagne une tonalité en gris plus riche. Et peut-être moins simpliste et violente comme peut l'être dans Howard.
As I was saying, I was when I think of empire, I think of either Rome or China. I, for the life of me, cannot see an American empire at any point. I mean, we inherited some stuff we took away from the Spanish in 1898, but we got rid of most all of it in almost no time, and I don't see anything else where we're camped and making people do what we want them to do. I mean, most of the places we've got people at, they've been asked to be there.
Alors, je n'avais pas bien compris la question sur l'Empire. Pour moi, quand vous me parlez d'Empire, je pense à l'Empire romain, je pense à l'Empire chinois, mais j'ai vraiment... j'arrive pas du tout à imaginer l'Amérique ou les États-Unis comme un empire. Et pour moi, il n'y a que des choses qu'on a piquées aux Espagnols, ou qui d'ailleurs ont plus ou moins disparu aujourd'hui, des choses qu'on fait, mais il n'y a pas vraiment d'empire américain, à mon sens.
Merci beaucoup. Malheureusement, je crois que... On va peut-être donner la parole à la salle, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose.
Non,
si vous avez des questions.
Moi, j'aurais bien une question à lui poser, mais je ne sais pas si... D'abord, la première salle.
Oui.
Donc, ça marche. Peut-être une question stupide. J'ai été étonnée que vous n'abordiez pas comme auteur Stephen King, qui regroupe un petit peu toutes les thématiques. Ça allait venir, d'accord.
Oui, ça allait venir, effectivement. Vous avez tout à fait raison, parce que Stephen King est aussi un héritier des auteurs dont j'ai parlé. Puisqu'il a rendu hommage à Lovecraft dans un texte célèbre. Il a aussi rendu hommage à Bram Stoker dans un roman sur le vampirisme, sur l'histoire de vampires. Et effectivement, c'est quelqu'un qui se situe au confluent, là encore, de différentes traditions littéraires, du côté de l'horreur, évidemment, mais du côté d'une horreur qui est à la fois parfois pastorale, c'est-à-dire les choses se passent en pleine nature, et notamment dans son état du Maine, où il est originaire, et aussi qui se passe du côté de, de l'horreur urbaine. Hein, c'est-à-dire que donc je crois qu'il y a, cette tension entre l'urbain, donc le cauchemar urbain, disons, et la manière dont la nature elle-même est en quelque sorte touchée, contaminée par l'horreur. Bon, évidemment, il y a le thème de l'épidémie, hein, chez King, qui est très important. Et ce thème de l'épidémie participe du mouvement post-apocalyptique en littérature et au cinéma, bien évidemment. Hein, pas simplement d'ailleurs américain, mais international. Pensez au film de Danny Boyle, par exemple, hein, sur les épidémies vampiriques. Le dernier film là, qui vient de sortir, qui s'appelle Contamination, je crois. Donc c'est Contagion, pardon, Contamination, je crois, enfin en anglais. Enfin, une histoire d'épidémie, en tout cas. Inspiré du virus H1N1, semble-t-il. Et vous avez tout à fait raison, King est très important. Et peut-être qu'il y a un film qui exprime assez bien justement cet imaginaire, c'est le film de John Carpenter qui s'appelle L'antre de la folie, qui est à la fois inspiré de Lovecraft, très clairement, mais aussi de King, notamment le roman qui s'appelle The Stand, hein, de King, c'est-à-dire Le Fléau, je crois, hein, c'est ça. Et vous avez tout à fait raison, King fait partie de ces écrivains qui décrivent une certaine forme de cauchemar américain, hein, de manière totalement différente, cependant, d'un auteur que je voudrais évoquer aussi pour finir et peut-être demander à Glenn ce qu'il en pense, Glenn Cook ce qu'il en pense, c'est-à-dire Cormac McCarthy. Vous connaissez sans doute le roman qui s'appelle La Route, qui a été adapté récemment au cinéma, et qui est effectivement un cauchemar absolument terrifiant, qui passe par la régression, littéralement, au cannibalisme, et ça nous renvoie aux origines puritaines, puisque à Jamestown, comme pourrait nous le dire Laurie Guillaume mieux que moi, les choses ont commencé par des scènes de cannibalisme, en fait. Donc cette idée d'un imaginaire régressif, d'un retour justement au primitivisme, au cannibalisme, c'est quelque chose qu'on trouve actuellement dans l'imaginaire contemporain américain, dans la littérature et évidemment aussi dans le cinéma, puisque tout maintenant passe par la médiation du cinéma, de la bande dessinée, comme on l'a dit, etc. Voilà, donc, mais vous avez tout à fait raison de dire que King est un moment important de la construction de l'imaginaire américain.
Okay, une autre question ?